Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur notre attitude dans la maladie. Dans Marc chapitre 5 et le verset 25, il est écrit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. » Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit « « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et sois guéri de ton mal. Amen. Ce n'est pas facile de bien réagir quand on est malade, particulièrement quand on est chrétien. Parce que pour la plupart des chrétiens, on pense que si on est chrétien, au moins Dieu permettra qu'on ne soit jamais malade, ou qu'on ne soit pas malade. Ou au moins que si on est malade, ça ne soit pas trop long, et que ça ne soit pas trop dur, et que finalement on passe comme ça à travers... les gouttes. Et le premier sentiment qui nous vient à l'esprit quand on est malade, c'est « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle sanction, une telle difficulté dans ma vie? J'ai déjà tellement d'épreuves et maintenant la maladie qui vient se rajouter en plus. » Alors, la Bible nous donne des bons conseils pour savoir quelle attitude adopter quand nous sommes malades. Parce qu'on ne peut pas changer les circonstances, mais on peut changer d'attitude. La première attitude que je vois, c'est dans ce texte, c'est la foi. Nous avons là le récit d'une femme désespérée qui avait été atteinte d'une maladie depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle souffrait et elle avait vu plusieurs médecins. Donc une longue maladie, ça veut dire quoi une longue maladie? Ça veut dire qu'elle portait une charge non seulement physique de souffrance, mais aussi psychologique. Parce que quand vous êtes malade une semaine, c'est une chose, mais quand vous êtes malade 12 ans, c'est autre chose. Malade 12 ans, ça veut dire que vous ne voyez pas l'avenir. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Et puis, on n'est pas fait pour porter des choses très lourdes finalement, nous les êtres humains. Dieu nous a créés avec beaucoup de capacités, mais pas tellement beaucoup de capacités pour porter des fardeaux. Par exemple, on sait que la fourmi est capable de porter 60 fois son poids. Donc si on fait un petit calcul, pour un homme, ça ferait 4,5 tonnes. Et pour une femme, 3,7 tonnes. Mais nous ne sommes pas capables de porter un poids pareil. Dieu ne nous a pas créés avec des capacités pour porter des poids. Et psychologiquement, nous pouvons supporter un certain poids, une certaine souffrance, mais quand vous avez 12 ans de maladie, c'est trop lourd. Quand vous ne voyez pas d'issue, quand vous êtes malade, que vous allez de médecin en médecin, c'est trop lourd. Alors, nous risquons de tomber dans la dépression, dans le découragement. Et elle a bien sûr cherché auprès des médecins. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas contre la médecine. Et il nous arrive de consulter les médecins. D'ailleurs, entre parenthèses, Luc, un des évangélistes qui a écrit tout l'évangile de Luc et les actes des apôtres, sa profession, il était médecin. Donc, pas de problème, un médecin, c'est utilisé par Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour les progrès de la médecine. Personnellement, je préfère subir une opération aujourd'hui qu'au Moyen-Âge, par exemple. Parce que si vous deviez vous faire opérer à cœur ouvert au Moyen-Âge, quand vous voyez le chirurgien arriver avec la scie, la hache, vous pouviez signer votre testament, c'est fini pour vous. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est dur, c'est toujours dur une opération. Mais avec les soins médicaux, les progrès, merci Seigneur pour les découvertes scientifiques comme les microbes par exemple. C'est récemment qu'on a découvert l'existence des microbes, que les médecins se lavent les mains avant les opérations, tout cela. Ça a été progressivement découvert dans l'histoire de la médecine. Mais malgré toutes les avancées, béni soit Dieu, parce que moi, personnellement, je crois que c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour soigner les autres hommes. Donc, pour moi, les médecins, c'est une bénédiction. Mais malgré tous les progrès de la médecine, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous, c'est pareil, la médecine arrive à découvrir comment soigner une maladie, et puis il y a d'autres maladies qui arrivent, que la médecine n'arrive pas à traiter. Elle arrive à traiter ces nouvelles maladies, et puis d'autres maladies arrivent qu'on n'avait pas encore prévues. Et puis on dirait que c'est un cercle sans fin. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a des nouvelles maladies, même si la médecine fait des grands progrès, elle n'a pas réponse à tout, bien sûr. Et cette femme avait consulté donc plusieurs spécialistes, on peut dire qu'elle avait des grands moyens financiers. Parce qu'imaginez aujourd'hui si nous devions payer tous les soins que nous prenons. Ça serait ruiné rapidement, suivant les maladies. Elle, 12 ans, elle a fait tous les médecins. Bien sûr, il n'y avait pas la sécurité sociale, donc elle payait tout à ses frais. Hein, ne serait-ce que penser une hospitalisation, par exemple, combien ça coûterait si on devait le payer, nous. Ça va vite chercher des milliers d'euros. Et là, quand c'est sur une période aussi longue, vous allez de médecin en médecin, vous prenez des traitements, vous payez tout, eh bien, la Bible dit qu'elle avait vidé tout son compte en banque. Elle n'avait plus d'argent. Et le résultat, c'est triste, cette histoire, parce que, bien sûr, on se dit, quand on a de l'argent, on s'appuie sur son argent, parce qu'on croit que l'argent peut nous aider. Mais elle avait dépensé tout son argent sans que cela lui apporte le soulagement espéré. Donc, on voit, malgré ses efforts, malgré son argent, malgré ses désirs, elle n'a pas de solution. Vous voyez, quand on n'a pas d'espoir, quand vous n'avez plus d'argent, quand vous n'avez plus de vision, quand vous ne voyez plus rien, quand c'est l'obscurité autour de vous, il y a une forme d'angoisse, d'inquiétude par rapport à l'avenir. Quand on ne voit pas devant soi, on est angoissé. J'ai vécu une expérience il y a quelques années lorsque j'étais directeur de camp d'ados, et les ados avaient été un peu turbulents. Alors avec les animateurs, on s'est dit, on va leur faire un jeu de nuit pour leur faire peur. Et donc, on avait repéré un petit bois. De jour, il était magnifique, ce bois. Et c'était marqué « Propriété privée, chasse gardée ». Alors, on s'est dit, on va quand même le tenter. Et j'ai demandé qui sera le volontaire. Alors, le titre du jeu, c'était « La chasse au dahu ». Il fallait retrouver un animal la nuit dans les bois. Et quand j'ai demandé au moniteur qui veut être volontaire, ils ont tous fait un pas en arrière. Je me suis retrouvé tout seul avec mon jeu, et je me suis retrouvé aller dans les bois tout seul la nuit avec une corne pour imiter le bruit d'un animal pour que les ados me retrouvent. Déjà, la nuit, c'est pas pareil que le jour. Quand vous voyez le bois la nuit, vous n'avez pas l'impression que c'est le même bois. Tout est sombre, tout est différent, et puis tout est inquiétant finalement. Mais au premier son de corne, quand j'ai soufflé dans la corne, j'ai entendu des bruits de partout, des animaux qui couraient dans tous les sens. Et une peur m'a saisi parce que je ne voyais pas. Et j'avais l'impression qu'il y avait des sangliers, qu'il y avait des animaux tout autour. En fait, je n'entendais que des bruits de pas. Mais le pire de mon angoisse, c'est que j'ai imaginé, parce que quand vous êtes angoissé, vous imaginez des choses. Et quand vous ne voyez rien, c'est pire que tout. J'entendais des bruits de pas et j'imaginais qu'il y avait un chasseur qui était sorti la nuit avec un fusil à infrarouge pour tirer du gibier. Et moi, j'étais là avec ma corne. Et je vous assure que souffler dans la corne, c'était une épreuve. Et je soufflais et j'avais les titres des journaux qui venaient dans mes yeux. Un directeur de camp d'ado abattu par un chasseur dans les bois la nuit. Voilà mon angoisse. Ça a duré, je ne sais pas, peut-être une heure. Deux heures, ça, pour moi, ça a duré un temps infini. La nuit, vous paniquez. La nuit, vous ne comprenez rien. Et en fait, j'avais qu'une hâte, c'était qu'ils me retrouvent et qu'on rentre au camp. Et eux, tranquilles, les ados, ils cherchaient. Ils étaient en groupe, alors ils étaient plus forts. Mais quand on est tout seul, la nuit, on a peur. On ne voit rien, on a des angoisses, on n'a pas la vision, on interprète tout mal. Tout était pour moi danger. Or, il n'y avait peut-être pas de danger, mais comme vous ne voyez rien, vous vous inquiétez. Cette femme n'a plus de vision devant elle. Elle ne voit pas l'avenir. Quand vous ne voyez pas l'avenir, vous vous angoissez. Vous êtes dans la crainte. Vous avez peur. Et puis le tournant du texte, c'est quand il est dit « ayant entendu parler de Jésus ». Oui, elle était dans l'obscurité, elle n'avait pas de vision pour sa vie. Sa vision, c'était la maladie et la mort. Mais elle pouvait entendre. Et quelqu'un lui a témoigné du Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est de témoigner, de raconter ce que le Seigneur a fait dans notre vie à une autre personne. Comme cette femme, elle a bénéficié d'un témoin qui lui a dit ce que Jésus avait fait pour elle. Ayant entendu parler de Jésus, elle est partie à sa recherche. C'est dans les années 1950 qu'une femme était partie dans un hôpital. C'était en Corée du Sud. Elle est partie pour témoigner de sa foi, une chrétienne. Et elle a parlé à un tuberculeux qui allait mourir. Il avait 18 ans. Il était sur le point de mourir. Il lui restait quelques jours à vivre. Elle lui a parlé de ce Jésus qui guérit encore aujourd'hui. Elle lui a laissé une Bible, lui qui ne connaissait pas la parole de Dieu, qui ne connaissait pas Jésus, et elle l'a invité à prier. Elle lui a annoncé le salut, elle a prié pour lui et elle l'a invité à prier. Elle est repartie. Cet homme a cru, il a saisi la parole. Il a été guéri de sa tuberculose. Il a vécu encore des années, il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur d'une des églises les plus grandes du monde par la suite. Il s'appelle Yung Gisho. Mais ce qui est extraordinaire dans son témoignage, c'est que cette femme qui a témoigné à un homme qui allait mourir, elle ne savait pas ce qu'il allait devenir. Et lui-même, il n'a jamais su qui était cette femme qui lui avait témoigné, il ne l'a jamais retrouvée. C'était une chrétienne qui allait de malade en malade et qui a témoigné simplement de Jésus. Vous vous rendez compte qu'avec un seul témoignage, ça peut déboucher sur quelque chose de glorieux. Vous ne le savez pas. Vous avez juste fait qu'obéir à la parole de Dieu. Et cette femme, c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un a obéi à la parole de Dieu, elle lui a parlé du Seigneur. Peut-être cette personne n'a jamais su ce que cette femme en a fait, mais cette femme est allée à la rencontre de Jésus et a été sauvée. Un espoir est né dans son cœur. Elle s'est dit « si Jésus pouvait faire ce miracle pour moi ». En même temps, il y a deux facteurs qui l'arrêtent. Premièrement, selon la loi, elle est impure. Donc, elle n'a pas le droit de toucher Jésus. Et puis, il y a la foule qui entoure Jésus, donc c'est une sorte de blocage. Et frères et sœurs, si vous voulez faire la volonté de Dieu, si vous voulez vous approcher de Jésus, il y aura toujours de l'opposition. C'est spirituel. Il y a des gens qui vont vous arrêter, il y aura des obstacles qui vont se dresser en face de vous. Si vous voulez faire les choses pour le monde, il n'y aura pas de problème. Mais si vous voulez faire des choses pour Dieu, vous approcher de Dieu, il y aura des difficultés, il faut le savoir, et il faut être prêt à les surmonter. Et cette femme dit dans Marc chapitre 5, verset 28, dans un élan de foi, elle se lance un défi à elle-même. « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai peut-être, peut-être guéri. » C'est comme ça ?« Je serai guéri. » Vous voyez la différence entre « je serai peut-être guéri » et « je serai guéri ». Donc « je serai guéri », c'est une parole de foi. Elle s'attend à la guérison. C'est entre elle et Dieu, elle n'en a parlé à personne. Elle vient dans la foule, elle a dans son cœur cette certitude, si je touche son vêtement, je serai guéri. Voilà la parole de foi qui l'anime. Ben, il y a peut-être une prière dans votre cœur ce matin, c'est entre vous et Dieu, personne ne le sait, mais si vous avez la foi, si vous croyez dans votre cœur que cela est possible, Dieu va vous l'accorder parce qu'il répond à la foi, à votre foi simple, comme cette femme qui a une foi simple. Elle fait un acte de foi. Je dirais que la foi s'approprie ce qui est potentiel. Jésus, quand il est mort à la croix, il a donné sa vie pour le monde entier. Mais la foi nous permet de nous approprier la bénédiction qui est pour tous. La bénédiction, elle est là, elle est accessible. C'est comme le bras de Dieu tendu vers l'homme. Mais la foi, c'est le bras de l'homme qui saisit la grâce de Dieu. J'aime bien ce texte de Romains 4, 18, qui pour moi est un haut degré d'expression de la foi qu'on trouve chez Abraham. Romains 4, 18, voilà en quoi consiste la foi, frères et sœurs. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il espérait encore. Parfois, vous serez tout seul à espérer, alors que dans votre famille, il n'y a plus personne qui croit. Plus personne ne veut suivre votre chemin. Peut-être certains vous diront, tu crois encore, à quoi ça sert? Tu crois encore? T'es encore malade? Ou Dieu n'a pas répondu à ta prière? Et parfois, on se rend compte qu'il y a certaines personnes, ils ont le don du découragement. C'est pas un don qu'on trouve dans la parole de Dieu, mais ils ont le don du découragement. Vous les voyez arriver, il vous décourage déjà. Et quand il parle, il vous décourage encore plus. Abraham ne s'est pas laissé contaminer par ses découragements, mais il a continué à espérer contre toute espérance. C'est-à-dire que c'était désespérant sa situation. Il n'avait pas d'enfant, il ne voyait pas la réalisation de la promesse, ce n'était pas possible que ça se réalise, c'était donc désespérant. Mais il continuait à espérer contre toute espérance. Et le texte dit « il crut et il devint ainsi le père ». Donc, il crut d'abord, et ce qu'il a cru, il est devenu ce qu'il a cru qu'il deviendrait. Mais si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas devenir ce que Dieu a prévu pour vous. Il y a cette nécessité de croire à un moment donné pour devenir. Abraham l'a fait, il l'a saisi. Alors c'est toujours facile de croire pour Abraham, par exemple, pour les autres. C'est facile de croire pour ailleurs, pour au loin, mais pour croire pour nous-mêmes, c'est autre chose. Il y a un homme qui s'appelait Charles Blondin, en 1859, ça a été le premier funambule à traverser les chutes du Niagara sur 330 mètres. Et il a fait l'aller-retour, il y avait 100 000 personnes qui acclamaient et qui trouvaient ça extraordinaire. Quel exploit! Tout le monde a apprécié son talent. Et il a refait la même chose avec une brouette. Et il a fait l'aller et il a fait le retour avec la brouette. Tout le monde appréciait, tout le monde applaudissait. Mais quand il a demandé « est-ce qu'il y a un volontaire pour monter dans la brouette et je fais l'aller-retour ?» Personne n'était volontaire. Parce qu'il croyait tout ce que lui pouvait le faire, mais jamais personne n'aurait voulu tenter de le faire lui-même avec lui. Parce qu'on est tous partants pour les autres, mais on n'est jamais vraiment partants pour soi-même. Cette femme a eu l'audace de la foi dans sa propre situation, dans son propre combat. Son combat est énorme, son combat est lourd. Ça va être une guérison pour cette femme qui vient en réponse à sa foi. Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il dit « Qui m'a touché ? Qui m'a touché ?» La force de Jésus est sortie en réponse à la foi de cette femme. Jésus savait qu'une personne était venue avec foi. Vous voyez, le texte dit qu'il y a plein de gens qui touchaient Jésus. Mais si vous vous approchez de Jésus sans la foi, vous ne recevez pas la bénédiction. Elle s'est approchée de Jésus en mettant sa foi en action. Et en fait, une force est sortie de Jésus et est venue sur elle et l'a guérie. Jésus conclut en soulignant le plus important. « Ma fille, lui dit Jésus, ta foi t'a sauvée. » Elle était venue chercher la guérison. « Oui, sois guérie. » Il lui dit « Va en paix, sois guérie de ton mal. » Mais sa foi l'a amenée à découvrir que Jésus, c'est aussi le sauveur. Pas simplement le guérisseur, mais il est le sauveur pour pardonner les péchés. Parce que beaucoup de gens cherchent Jésus pour la guérison, mais j'aimerais vous dire que Jésus, c'est celui d'abord qui vous sauve et vous pardonne de vos péchés. Si vous n'avez pas rencontré Jésus comme sauveur, acceptez-le aujourd'hui même et qu'il vienne habiter dans votre cœur. Après, il guérit, il délivre, tout cela, ce sont des bénédictions. Mais si vous êtes guéri et que vous n'avez pas accepté Jésus comme sauveur, votre âme est perdue pour l'éternité. Donc le salut n'est pas encore entré dans votre vie. Jésus a beaucoup enseigné sur la foi dans Marc chapitre 11, verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, dit Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et notez bien dans ce verset qu'il y a trois temps qui sont essentiels pour nous chrétiens. C'est le présent, vous devez croire maintenant, croyez, impératif présent. Vous l'avez reçu, c'est quelque chose d'acquis, c'est au passé. Et vous le verrez s'accomplir, c'est futur. Présent, passé, futur, c'est les temps de Dieu. Parce que pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ce qui n'est pas encore est déjà reçu dans notre cœur, par la foi. Et c'est là où la foi joue. Je parlais d'Abraham, mais à chaque fois que Dieu parle à Abraham, il utilise les trois temps. Des fois, il dit à Abraham, « Je fais de toi le père d'un grand nombre de nations au présent. » Des fois, il lui dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Mais il n'a toujours pas d'enfant. Il lui dit au passé, alors que Isaac n'est pas encore né. Ou alors il lui dit, je t'établirai père d'un grand nombre de nations. Il lui dit au futur. Donc, pour Dieu, c'est pas un problème. D'ailleurs, son nom, c'est Yahvé, qu'on traduit par celui, je suis celui qui suis, c'est-à-dire je suis, j'étais, je suis, je serai. Je suis l'éternel présent. Jésus ne répond pas aux deux questions qui nous préoccupent le plus. C'est « Quand est-ce que tu vas me guérir ?» et comment est-ce que tu vas me guérir? Et la foi, c'est croire que Dieu va le faire, il va répondre à nos prières, alors que tous nos sens indiquent qu'il n'y a rien qui bouge. Dans Romains 4, 19, on a l'exemple d'Abraham. « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Et là, si on regarde à vue humaine, on dirait à Abraham, « c'est pas possible. » Ou si vous regardez votre maladie, le médecin vous dira, « Monsieur, c'est pas possible, vous serez toujours comme ça. » Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de solution. Et si vous considérez les choses à manière humaine, ben vous n'êtes plus sur le terrain de la foi. Sans faiblir dans la foi, ben, il y a des obstacles, il y a des impossibilités, elles sont nombreuses, mais Abraham n'a pas cédé. Et même si Dieu ne répond pas à ces deux questions, je pense qu'il faut les abandonner à Dieu parce qu'il y a le temps de Dieu et il y a la manière de faire de Dieu. Et ça, ça lui appartient. C'est son œuvre. Maintenant, il y a un deuxième élément que je voulais mentionner, c'est l'obéissance. On a parlé de notre attitude, d'abord la foi. Deuxièmement, l'obéissance. J'ai pensé à ce texte où il y a 10 lépreux qui viennent voir Jésus pour l'interpeller. « Seigneur, aie pitié de nous ». La lèpre était un véritable fléau, ils allaient mourir de mort lente, il n'y avait aucun traitement, il n'y avait plus que la grâce de Dieu pour eux, ils allaient mourir bientôt, ils étaient exclus de la société, ils étaient entre lépreux, c'était assez décourageant. Mais là encore, ils ont entendu parler de Jésus. Même des lépreux qui étaient reclus, éloignés de la société, vous voyez, quand Dieu cherche une âme, il trouve toujours le moyen, par une personne, par un moyen, de toucher un cœur. Les lépreux sont donc obligés de se tenir à distance à cause du risque de contagion. Donc ils disent à Jésus, « Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Mais ils le disent à distance. C'est leur dernier espoir. Et dans Luc chapitre 17, verset 14, voilà le texte que je voulais lire. « Dès qu'il les eut vus, et ça c'est Jésus, il leur dit, « Allez, vous montrez au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Mais si vous regardez bien ce texte, il n'est pas dit que Jésus a prié pour eux à ce moment-là. Il les a simplement envoyés se montrer au sacrificateur. On ne le voit pas imposer les mains, on ne les voit pas prier, et puis ces 10, ils étaient venus pour ça. Ils pouvaient être déçus en se disant « Jésus n'a pas prié pour nous ». Mais remarquez qu'ils obéissent quand même à la parole du Seigneur. Et nous avons toujours raison d'obéir à Dieu. Le Seigneur a honoré leur attitude de foi, d'obéissance, et tous ont été guéris en chemin. Vous voyez que l'obéissance est importante pour Dieu. Je pense à ce texte de 1 Samuel 15, 22. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. L'obéissance, donc, a déclenché chez eux le processus de guérison. C'est un principe qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Si vous regardez l'exemple du général syrien Naaman, il était donc malade, lépreux, malgré sa fortune, malgré qu'il était vaillant, malgré qu'il était honoré par le roi de Syrie, et qu'il avait tout fait pour lui, pour l'aider. La maladie l'a frappé en pleine gloire. Il sait qu'il va mourir, il sait qu'il n'y a rien pour soigner la lèpre. Et finalement, on est peu de choses. Il faut admettre que si nous sommes frappés par l'adversité, nous pouvons disparaître aussi du jour au lendemain. Ça peut être un cancer, ça peut être une maladie grave, une maladie sans issue. Jeunes, vieux, pauvres, des riches, on voit bien que la maladie frappe toutes sortes de gens, même des hommes dans la gloire. Mais une petite fille qui était là, on ne sait même pas son nom. Elle avait été emmenée captive, c'était une juive. Elle a parlé du Seigneur, elle a parlé du Dieu d'Israël qu'elle connaissait. Et elle dit, si mon maître était en Israël, si il pouvait connaître ce Dieu-là, il serait guéri de sa lèpre. Une foi toute simple. Voyez que la solution, elle arrive par des gens humbles, par des gens qu'on ne soupçonne même pas. On ne voit même pas l'utilité ou l'intérêt de cette petite servante, mais C'est par elle que vient la solution. Alors Naaman se rend en Israël, alors lui, il vient avec de l'or, Il vient avec des vêtements, il vient avec son argent, avec ses biens, et il se dit, je vais acheter ma guérison. Il vient dans un état d'esprit où il veut acheter sa guérison. Il va voir le roi peut rien pour lui, il va voir le prophète Élisée. Il s'attendait à ce qu'au moins Élisée sorte de la maison pour le saluer, faire quelques honneurs, quelques égards. Élisée ne sort même pas de la maison. Il envoie un serviteur dans 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Le serviteur, il fait dire au serviteur, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est le serviteur qui vient parler de la part du prophète. À ce moment-là, Naaman pense que quand même, étant donné son rang, le prophète aurait pu faire quelque chose. Au moins sortir de la maison, invoquer son Dieu, prier qu'il se passe quelque chose pour lui. Rien. Pas de prière, rien se passe. Il repart en colère. Il est sur le point de quitter. S'il était parti comme ça, il aurait manqué sa guérison. Il n'aurait pas obéi. Il serait parti plein d'amertume et il serait mort de lèpre. Mais les serviteurs ont été plus intelligents. Ils ont dit à Naaman, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Et là, aller te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain, est-ce que tu... c'est simple, tu peux le faire. Alors ils ont réussi à le persuader. Mais imaginez l'état d'esprit de Naaman devant ses serviteurs, il doit se dévêtir, entrer dans l'eau boueuse du Jourdain par rapport aux fleuves quand même qui sont en Syrie, ils étaient beaucoup plus limpides. Mais il obéit, il se plonge une fois, deux fois, il regarde, il n'y a rien qui bouge. Quelquefois, vous devez obéir, il n'y a rien qui bouge. 6 fois, il n'y a rien qui bouge. Et c'est seulement quand vous obéissez jusqu'à la 7e fois que ça déclenche le miracle, le processus de guérison s'enclenche, la chair de Naaman redevient comme celle d'un enfant. La guérison peut aller très vite quand on est obéissant, mais ça peut être très long avant d'obtenir le moment de la bénédiction. Mais pour Naaman, ça s'est passé très rapidement, sa guérison, parce qu'il a obéi jusqu'au bout. Maintenant, si on avait dit, Naaman, au bout de 6 fois, c'est plus la peine d'insister, rentrons à la maison, il n'aurait pas été jusqu'au bout et finalement, il serait reparti lépreux. Donc l'obéissance, je dirais partielle, n'aboutit pas à la bénédiction. Obéissons vraiment à la parole de Dieu jusqu'au bout. C'était le deuxième attitude. Première, c'est la foi. La deuxième, c'est maintenant l'obéissance, comme c'est dit lépreux ou Naaman. Et je terminerai avec une dernière attitude. C'est la reconnaissance, la louange. Et le livre de Job est très instructif à cet égard, puisque c'était un homme aussi très riche, qui avait beaucoup de biens, des troupeaux, une famille nombreuse, qui s'aimait, les enfants, il priait pour ses enfants et tout. Et puis une catastrophe est arrivée sur la famille, il y a eu destruction des troupeaux, des biens matériels, et puis même des enfants qui sont morts dans des effondrements des maisons sur eux, tout. Donc épreuve sur épreuve. Et pour couronner le tout, voilà que Job se retrouve atteint dans son corps d'une maladie de peau, une ulcère. Un ulcère malin qui le fait souffrir, il se gratte avec des débris de poterie. Sa femme, pour elle, s'en est trop. Bien sûr, tout ça, c'est énorme. Elle a perdu ses enfants, son mari qui est malade. Elle comprend pas pourquoi Job persévère dans son intégrité. Elle lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Et c'est difficile quand on est frappé par la maladie. C'est difficile quand le couple même... Par exemple, quand dans un couple, il y en a un qui est atteint par la maladie et que l'autre, il doit soutenir la personne malade, parce que c'est dans la durée, il faut tenir dans la durée, c'est pas facile. La maladie va éprouver l'amour dans le couple et certaines fondations peuvent éclater quand il y a une maladie. Mais Job dit dans Job chapitre 1, verset 21, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il arrive à rester dans la reconnaissance, dans la louange, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Un jour, un pasteur était interviewé. Il avait perdu son fils aîné dans un accident de voiture. Il était mort sur le coup. Une chose terrible, incompréhensible. Et il demandait à ce pasteur, mais comment faites-vous pour ne pas devenir amer ? Et le pasteur a répondu, il y a des choses que je comprends pas. Il y a des choses qu'on n'aura jamais d'explication dans ce monde. Mais il y a des choses que je sais, c'est que Dieu est bon. et c'est que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et il restait fermement attaché à sa foi. Il n'avait pas d'explication, il n'avait aucune raison, aucune explication à ce mystère, et il admettait que sur terre, on n'aura pas réponse à toutes nos questions. Mais au ciel, tout s'éclaircira, tout deviendra limpide, même si encore sur terre, ben, nous devons vivre avec des questions. Mais en tout cas, il n'est pas tombé dans l'amertume, il n'est pas tombé dans le rejet de Dieu, il a continué à manifester sa foi en Dieu. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, que nous devons rester reconnaissants. Il dit « Soyez toujours joyeux ». Vous avez remarqué le mot « toujours ». C'est pas facile d'être joyeux dans toutes les circonstances. Il y a des fois où on est triste, mais ça nous encourage à retrouver le chemin de la joie. Priez sans cesse, c'est-à-dire ayez constamment une attitude tournée vers Dieu dans la prière. Rendez grâce en toutes choses. Il ne dit pas « rendez grâce quand tout va bien seulement » ou il ne dit pas « rendez grâce quand vous êtes béni ». Il dit « rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». En fait, notre joie ne doit pas dépendre des circonstances, mais doit être fondée sur Dieu. Notre joie, elle est en Christ. « Christ est ma joie ». Des fois, on prend ce chant « Christ est ma joie ». C'est Martin Luther King qui disait « Dans mon église, il y a deux sortes de chrétiens. » Il y a les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. Les chrétiens thermomètres, ce sont ceux qui fluctuent en fonction de l'ambiance. Quand ça va bien, ils sont dans la joie, et quand ça va mal, ils sont dans le découragement. Et puis il dit, les chrétiens thermostats, ce sont ceux qui maintiennent la prière, la foi. Quand ça va mal, ils continuent à rester sur le même thermostat, c'est-à-dire dans la louange, dans la reconnaissance. Et il encourageait vraiment les chrétiens à aller dans ce sens-là. Dieu nous a appris à rester reconnaissants aussi nous-mêmes. Je témoignais il y a quelque temps de notre épreuve. Vous connaissez par rapport à Laurence qui a été malade en 2008, 3 maladies orphelines, et ça a duré des mois et des mois, une année entière. Et au bout d'une année entière, on ne voyait pas l'issue. Je vous ai parlé que même j'étais sur le point de passer dans la dépression. Mais Dieu m'a maintenu avec la parole de Dieu. Mais il y a un autre élément que je n'ai pas mentionné, c'est qu'au bout d'un an, Dieu nous a dit, et nous l'a mis à cœur, à Laurence et moi, nous a dit « Louez-moi pour la guérison ». Sauf que Laurence était toujours malade. Et on a commencé à louer le Seigneur tous les jours on a loué le Seigneur. Soyez reconnaissants en toutes choses. Et on s'appuyait sur la promesse de Dieu. Et ça a duré une semaine. Et on pensait que si Dieu nous disait ça, on pensait, ben, c'est bon, c'est que la guérison est là, elle arrive, elle approche là, c'est dans les prochains jours. Sauf qu'au bout d'une semaine, on louait tous les jours, mais il n'y avait rien. Et puis au bout d'un mois, il n'y avait toujours rien. Et au bout d'un an, il n'y avait toujours rien. Et on louait le Seigneur tous les jours. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on loue le Seigneur pour quelque chose qu'on n'a pas? Et là, c'est Dieu qui nous apprend à le louer pour des choses qu'on n'a pas encore, mais qui vont arriver. Mais vous ne savez pas quand elles vont arriver. Donc on a loué une année, et il y a encore eu une autre année qui est venue derrière. Et c'est seulement au bout de 2 ans que Dieu, dans sa grâce, est intervenu par sa puissance pour guérir Laurence du jour au lendemain. Mais on a appris pendant 2 ans, 2 années entières, alors que Laurence n'allait toujours pas mieux, à le louer pour quelque chose. On l'avait reçu par la foi, mais on l'a vu s'accomplir que dans un deuxième temps. Apprenons à louer le Seigneur sur sa parole, sur ses promesses. On ne le voit pas encore. Louons-le dans l'attente. J'ai remarqué pour nous, ce qui est le plus compliqué, c'est d'attendre. On n'aime pas attendre. Même quand on est dans un magasin, on fait la queue à la caisse, on n'aime pas attendre. Au feu rouge, on n'aime pas attendre. Mais alors, dans la vie chrétienne, on n'aime pas attendre. Et si vous n'aimez pas attendre, plutôt, si vous n'êtes pas collé dans le timing de Dieu, parce qu'en fait, il y avait un timing de Dieu, c'est-à-dire que Dieu avait déterminé, voilà, ce sera à ce moment-là que Laurent sera guéri. Si vous ne vous calez pas sur le timing de Dieu, vous allez être frustré, vous allez être malheureux. Parce que vous allez dire, mais pourquoi Dieu n'a pas agi? Pourquoi Dieu est en retard? Pourquoi il n'agit pas comme moi je veux? Sauf que lui, il a son temps. Et c'est plutôt à nous de nous caler sur ce que Dieu veut. Sinon, vous allez être malheureux, vous allez être frustré, vous allez dire, bah, Dieu répond pas. Vous allez vous plaindre, vous allez gémir. Vous allez dire, bah, ça sert à rien de prier. Oui, mais parce qu'il y a un timing. Ce timing, nous devons apprendre à le connaître et apprendre à patienter. Et puis surtout, veillons à nos paroles. Parce que nos paroles ont une puissance de vie ou de mort. Une puissance de vie ou de mort, vous pouvez avec la même bouche donner des malédictions ou des bénédictions. Attention aux paroles à tort et à travers. C'est catastrophique. Quand quelqu'un dit par exemple « je m'en sortirai jamais », « je serai toujours malade », ou alors comme cette sœur qui, à la sortie d'une réunion de prière, me dit « je prie tous les jours pour mon mari, mais je sais qu'elle ne sera jamais guérie ». Donc là, on voit bien que elle ne met pas sa foi en action. Et je lui dis « mais au moins croyez qu'il va, il va se tourner vers Dieu, il va être sauvé ». On va prier quelques instants. Il y a un dernier psaume que je voulais lire, psaume 118, verset 17. « S'il y a une mauvaise parole qui sort de votre bouche, par exemple, « je n'y arriverai jamais » ou « je ne serai jamais guéri » ou « mon mari ne se convertira jamais », eh bien, contrecarrez avec une bonne parole. Psaume 118 dit ceci, verset 17, « je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Peut-être on lui avait dit, bah, « toi, pour toi, c'est fini, tu vas mourir. » Pour toi, c'est fini, tu vas mourir. Et lui, il a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai, je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Il a pris le soin de contrecarrer une parole mauvaise, peut-être que c'est une pensée qui lui est venue, je vais mourir. Et il a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. On va prier quelques instants, je vais inviter Delphine, si tu veux jouer ce dernier cantique. Et quelle est votre attitude ce matin ? Je ne sais pas si vous passez par une situation difficile, mais en tout cas, les situations, on les subit, on ne peut pas les changer. Ce qu'on peut changer, c'est notre attitude. Comme cette femme à la perte de sang, vous pouvez développer la foi et croire dans le Dieu du miracle. Croire que Dieu peut le faire encore. C'est entre vous et Dieu, personne ne le sait. Cette femme est venue par derrière. C'est dans votre cœur. Comme Naaman, peut-être ce que Dieu attend de vous, c'est l'obéissance. Il vous a demandé quelque chose et il faut le faire jusqu'au bout. Sans tout comprendre, comme Naaman jusqu'à la septième fois, même si pendant six fois il n'a pas vu d'amélioration, même s'il avait toutes les raisons d'abandonner, il a obéi jusqu'au bout sans tout comprendre. Ou comme Job, ce que Dieu attend de vous, c'est la louange, la reconnaissance, alors que même vous êtes dans une situation sans issue. Notre part, c'est de faire confiance à Dieu, de nous attendre à Dieu. La part de Dieu, c'est de guérir. Dieu ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il nous demande de lui faire confiance. Merci encore pour ta présence. Merci pour ta grâce. Et nous croyons ce matin que tu es encore ce Dieu de restauration, ce Dieu de guérison qui étend sa main bénie sur celui ou celle qui a besoin. Tu vois les cœurs, tu vois peut-être celui qui est souffrant, celui qui est venu chargé avec un fardeau, avec une maladie, avec un besoin. Mais nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur, comme ces bien-aimés dont nous avons cité les exemples, en disant « Oui, Seigneur, tu peux tout. Oui, Seigneur, tu es tout-puissant pour guérir encore aujourd'hui. » C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.